Bonjour, cher frère. J'ai beaucoup apprécié le sermon de Monsieur Sorocco. Je ne pense pas que je l'aurais autant apprécié si je m'en étais tenu au plan initial que j'avais aujourd'hui, qui était de parler du maintien de l'élan spirituel ou de la construction de l'élan spirituel après la fête. Les 20 dernières minutes au fond de la salle auraient été très difficiles, mais heureusement, j'ai changé de cap suffisamment tôt pour parler d'autre chose. Pour les locaux, si vous levez les yeux, oui, j'ai une coiffure un peu différente aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit de votre imagination. Je l'expérimente aujourd'hui. J'ai approché le siège. Ma femme travaillait déjà dans la cuisine, elle ne l'avait donc pas encore vue. J'ai appelé Monsieur Hoop de loin, et il est venu gracieusement me donner le feu vert. Ce n'était pas aussi grave que je le pensais. Lorsque j'ai enfin vu ma femme, brièvement à l'extérieur, puis au fond de la salle, elle m'a tendu la main et m'a dit: Enchanté de vous rencontrer. Je m'appelle Sarah. Je me suis dit: Oh, non, je dois vraiment avoir l'air différent. C'est amusant à transmettre, mais ce n'est pas notre objectif aujourd'hui. Je vais donc faire une pause pour qu'il puisse couper tout cela de l'enregistrement, s'il le souhaite. Combien d'entre vous se sont perdus? À main levée, j'imagine que la plupart d'entre nous. Se perdre sur le chemin d'un rendez-vous ou d'une destination à l'autre bout de la ville peut être gênant. Vous deviez peut-être être quelque part à une heure précise et vous n'êtes pas arrivé à temps. Cela a peut-être interrompu votre emploi du temps quotidien. Mais combien de personnes se sont perdues, disons, dans les bois? D'accord, quelques mains, et vous savez que c'est très différent d'être perdu en chemin, surtout aujourd'hui avec le GPS, pour se rendre à l'épicerie ou ailleurs. Je me suis déjà perdu dans les bois. 1 heure ou 2 se sont écoulées, j'ai vu des coyotes qui m'encadraient. J'étais au fond d'une vallée. Ce n'était pas une bonne situation. Vous qui avez levé la main, vous avez probablement vécu la même chose. Mais c'est alors qu'un inconvénient devient une question de survie. Il est très différent d'être perdu dans une situation où votre survie est en jeu. Même si vous ne rencontrez pas d'animaux sauvages, l'hydratation de notre corps est limitée. Il n'y a qu'une quantité limitée de nourriture. Cela peut être très dangereux. En revenant de la fête hier, j'ai levé les yeux de mon siège et nous étions dans un avion qui nous ramenait dans le rayon, et j'ai vu une petite cabine sur le devant de laquelle était écrit Kit de survie à l'intérieur. Je me suis dit qu'il y avait peut-être des hameçons, du fil de pêche, une trousse de premier secours, voire des allumettes. Si vous pouvez avoir cela dans l'avion, il n'y aurait pas de couteau, comme un kit de survie habituel, je ne l'imaginerais pas dans un avion. Mais j'ai commencé à penser à ces histoires de naufragés sur des îles. J'ai grandi, j'ai lu Robinson Crusoe, vous savez, ces rencontres avec des cannibales, la construction d'abris, la recherche de nourriture et la tentative de ne pas devenir fou, si je me souviens bien de certains éléments de l'histoire. Nous connaissons tous ces histoires de survie. On en entend parfois parler dans les journaux. Et parfois, il ne s'agit pas seulement de survivre lorsqu'on est bloqué, mais aussi de survivre en route vers une destination. Alors que nous continuons à dresser la table, certains ont probablement entendu parler du concept de la destinée manifeste, en particulier si vous êtes aux États-Unis. Lorsque les pionniers se sont dirigés vers l'ouest en traversant des terres périlleuses, ils ont dû faire face à la famine, aux tempêtes de neige et aux maladies sur la piste de l'Oregon. Ils devaient survivre en route vers leur destination finale. Et parfois, les choses allaient très mal. Vous pouvez lire tout cela, mais le récit le plus marquant, je dirais, qui illustre à quel point les choses pouvaient mal tourner, est celui du donné parti. Il émane du Bill of Rights Institute. Je le lirai brièvement au fur et à mesure que nous continuerons à aborder le sujet de la survie. Un autre aspect de l'élan, après le festin. Nous approfondirons le sujet plus tard, mais pour l'instant, je vous présente le donné parti de l'Institut des droits de l'homme. En 1846, le donné parti, un groupe d'immigrants de l'Illinois, a rejoint un train de chariot et s'est dirigé vers l'ouest, en direction de la Californie. Ils espéraient y construire des fermes sur des terres riches et non exploitées, dans un climat doux. Retardant leur départ, ils décident de prendre un raccourci qui leur permettra de gagner du temps et des kilomètres en quittant la piste de l'Oregon à un certain endroit. J'ai grandi dans les écoles primaires des États-Unis, où nous avions le jeu de Oregon Trail sur notre ordinateur. On voyait ces chariots pixelisés se déplacer sur l'écran. Puis la famine frappait, on mourait et on devait revenir au niveau précédent, ou bien un animal sauvage venait nous chercher, ou encore on était mangé par des indigènes. Je ne me souviens pas de toutes les catastrophes qui se sont déroulées dans le jeu Oregon Trail, mais c'est de là qu'il s'agit. Le Hastings Cut-off qu'il suivait avait été décrit par un écrivain nommé Lansford W. Hastings, qui ne l'avait jamais parcouru lui-même, mais qui voulait encourager les colons américains à s'installer en Californie, une terre qu'il présentait comme un paradis idyllique. Hastings espère que la Californie se libérera du Mexique et deviendra indépendante avant de rejoindre les États-Unis. Le cut-off était en effet le chemin le plus direct vers la Californie, mais la traversée de l'Utah et du Nevada s'est avérée beaucoup plus difficile qu'on ne l'imaginait. Les pentes abruptes et les hautes montagnes sont suivies de longues étendues désertiques. Le groupe donné avait pris la décision fatidique d'emprunter cette route. Lorsque le groupe atteint la rivière Truckee, dans le nord-ouest du Nevada, la nourriture commence à manquer et les hommes se disputent entre eux. Ils commencent à se heurter à l'adversité. Leur capacité à survivre est mise à rude épreuve. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsqu'un homme en a poignardé un autre et l'a tué. D'autres membres du groupe sont morts de maladie ou d'accident. Les Indiens d'Amérique volent ou abattent une partie de leur bétail, leur réserve de nourriture. L'expédition commence à se disloquer, de petits groupes et des familles quittant le groupe principal pour tenter de s'en sortir par leurs propres moyens. C'est le mois d'octobre, mais George Donné et les autres hommes décident d'essayer de traverser l'imposante Sierra Nevada. Alors qu'ils s'enfoncent dans les montagnes, la neige commence à tomber. Forcés de s'arrêter à cause des congères qui atteignaient 10 pieds de haut ou plus, le groupe établit un camp d'hiver composé de plusieurs cabanes et tentes rudimentaires. Malgré les efforts déployés pour partir à pied et ramener de l'aide, et malgré quelques tentatives de sauvetage, seuls 48 des 87 membres restants ont survécu à l'hiver. Certains étaient tellement en manque de nourriture qu'ils ont eu recours au cannibalisme, mangeant les corps de ceux qui étaient morts. Cette catastrophe tristement célèbre a mis en évidence les dangers liés à la décision d'aller vers l'ouest. Il s'agissait d'une lutte sans merci pour la survie. Si vous vouliez aller dans l'ouest, si vous vouliez ces promesses de richesse et de terre, certains avaient ce qu'il fallait et d'autres non. Comme nous l'avons entendu dans la sermonette, nous sommes de retour de la fête, nous devons maintenir l'élan spirituel. Nous avons plus de temps que nous ne le pensions, et en même temps, le monde devient plus dangereux qu'il ne l'a jamais été. Chaque jour qui passe, il devient plus périlleux. Le roi David a posé une question dans le psaume 11. Nous parlons bien sûr de survie spirituelle, et non de survie physique. Nous ne sommes pas confrontés aux serpents et à la neige, à la famine, à la maladie et aux peuples indigènes. Mais le parallèle est très réel. Le roi David a posé une question dans le psaume 11. Je mets ma confiance dans le Seigneur, Verset 1. Que dis-tu à l'insensé? Fuis comme un oiseau vers ta montagne. Car lorsque les méchants bandent leur arc, ils préparent leurs flèches sur la corde, pour tirer à l'improviste sur les cœurs droits. Entourés par le mal. Si les fondements. Telle est la question, si les fondements sont détruits, que peuvent faire les justes? Il a demandé. Le Seigneur est dans son saint temple, le trône du Seigneur est dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières examinent les enfants des hommes. En fin de compte, c'est Dieu qui contrôle, mais si les fondations, c'est-à-dire la base, au sens figuré, le soutien politique ou moral, si vous regardez dans l'hébreu, si le monde qui vous entoure s'effondre, si l'ordre de la société qui nous entoure s'effondre, que peuvent faire les justes? Vous savez que les frontières sont grandes ouvertes. J'ai entendu dire récemment qu'il y a 13 000 meurtrières avérées qui ont franchi la frontière. Et il y a toutes sortes d'autres crimes. Ces personnes errent désormais dans les rues. Nous voyons à la télévision certains de ces individus qui prennent le contrôle de complexes d'appartements dans les communautés, dans les grandes villes. Je ne veux pas être alarmiste, mais il y a maintenant des terroristes, des agents dormants comme on les appelle, des cellules dormantes partout. Les libertés s'érodent dans le monde entier. L'ordre politique des choses, les fondations changent. Ils sont en train d'être démantelés. Les enfants font l'objet de nouvelles et terribles prédations. Des choses aussi fondamentales que la différence entre un homme et une femme ne sont plus considérées comme allant de soi. Elles sont sujettes à discussion. Les tentatives d'assassinat semblent aujourd'hui monnaie courante. Quel que soit le parti auquel on appartient ou l'endroit où l'on se trouve dans le monde, elles sont de plus en plus fréquentes. Les hommes politiques continuent de mentir de manière de plus en plus éhontée. Nos enfants sont soumis à des institutions éducatives corrompues. La survie spirituelle, pourrait-on dire, est plus importante que jamais. La guerre se développe. Regardez ce qui s'est passé la nuit dernière. Les Israéliens ont frappé l'Iran. Nous savions qu'ils allaient le faire. Nous verrons quelle sera la réponse à cette escalade. Des rapports récents indiquent que la Corée du Nord va s'allier aux Russes. J'ai même entendu dire que les Sud-Coréens allaient se joindre aux Ukrainiens. Tout devient plus complexe et plus dangereux. La chose la plus dangereuse à laquelle nous devons faire face en tant que chrétiens est le fait que la morale de la société est en déclin. Oh, nous savons que Dieu nous protégera de toutes ces choses. Encore une fois, je n'essaie pas d'être alarmiste, mais nous devons observer et voir l'état du monde. Ce à quoi nous devons faire le plus attention, c'est à la façon dont la société est dans une spirale descendante. Nous ne voulons pas être entraînés dans cette spirale. Un petit fait tiré de science.org est basé sur un récent sondage, je crois que c'était un sondage de 2023. Selon un récent sondage Gallup, 54% des Américains estiment que l'état des valeurs morales dans le pays est médiocre, un chiffre record. 83% d'entre eux estiment que les valeurs morales sont en déclin. Incroyable. Il n'est même pas nécessaire d'avoir des yeux pour voir, pour ainsi dire. Il n'est pas nécessaire d'être dans l'église de Dieu pour regarder autour de soi et dire que les fondations sont en train d'être détruites. La morale s'effondre. Nous sommes de retour de la fête. Nous avons plus de temps. Comment allons-nous survivre? Nous sommes en pleine ascension spirituelle. Nous venons d'entendre 8 jours de messages merveilleux. Nous avons eu d'excellentes occasions de fraternité qui ne sont vraiment disponibles qu'à cette période de l'année, dans cette mesure, bien sûr. Mais maintenant, nous sommes de retour dans la société et nous nous trouvons dans ce que nous pourrions appeler une situation de survie spirituelle. Vous et moi, mes frères, sommes dans une situation de survie spirituelle. Notre capacité à survivre est essentielle. Jacques, chapitre 1, Jacques 1. Tout dépend d'elle. Jacques 1, 11. Jacques a dit, car à peine le soleil est-il levé, qu'il fane l'herbe, que les fleurs tombent, et que la grâce de son aspect disparaît. De même, le riche se fane dans ses voies. Heureux l'homme qui supporte la tentation. Signifie mettre à l'épreuve une expérience du mal. Heureux l'homme qui supporte la tentation, car lorsqu'il sera éprouvé, lorsqu'il supportera cette tentation, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Nous pourrions dire que l'homme qui survit est béni. Regardons les choses sous un angle un peu différent. Heureux l'homme qui survit en route vers la couronne de vie qui nous a été promise. Voici Paul, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 4, 13. 1 Corinthiens 13. Jacques dit, heureux l'homme qui endure, ou, pour ce qui nous intéresse ici, qui survit. Celui qui a ce kit de survie et qui l'utilise, celui qui peut surmonter tous les obstacles et rester debout. 1 Corinthiens 13, verset 4. La charité souffre longtemps, l'amour souffre longtemps, et elle est bonne. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas, ne s'enfle pas, ne se conduit pas de façon inconvenante, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas facilement, ne pense pas au mal. Il ne se réjouit pas de l'iniquité, mais il se réjouit de la vérité, il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Il survit quoi qu'il arrive. Endurer signifie avoir de la force, persévérer, en fait avoir de la persévérance. Peu importe ce qui lui arrive, l'amour peut tout endurer, tout survivre. L'amour ne manque jamais, verset 8, mais s'il y a des prophéties, elles manqueront, s'il y a des langues, elles manqueront. Qu'il y ait des langues, elles cesseront. Qu'il y ait des connaissances, elles disparaîtront. L'amour survit à tout. Quelle importance cela revêt-il dans l'environnement hostile dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Bien pire que n'importe quel désert, n'importe quelle île ou n'importe quel voyage à travers le pays. Des vies physiques étaient en jeu dans ces circonstances. Des vies physiques sont en jeu. Nous avons tout. Une couronne nous attend. La vie éternelle nous attend. C'est passionnant. Nous en avons entendu parler lors de la fête, et nous ne devrions pas être découragés ou intimidés par les choses auxquelles nous devons survivre. Nous devons simplement garder les yeux ouverts, ce que nous ferons dans un instant. En tant que chrétiens, nous survivons d'une certaine manière. Il y a de nombreuses facettes à cela, et nous en examinerons quelques-unes aujourd'hui, mais il s'agit surtout d'un jeu mental. Si vous interrogez des experts en survie sur la nature d'une situation dans laquelle les gens doivent utiliser leur formation ou s'appuyer sur des compétences qu'ils ont adoptées, ils vous diront généralement que plus que l'aspect physique, oui, vous devez être capable de trouver de la nourriture, de l'eau, de construire un abri, la véritable ligne de démarcation entre ceux qui survivent et ceux qui ne survivent pas, c'est l'état d'esprit. C'est le jeu mental. Une brève explication depuis la base aérienne de Ramstein en Allemagne, une base aérienne américaine. L'être humain est conçu pour survivre, explique cette base militaire. Pourtant, l'histoire a montré que lorsqu'ils sont bloqués dans des situations de survie, certains s'en sortent vivants et d'autres non. Peut-être que si certains ne peuvent pas changer leur sort, d'autres le peuvent. Nous avons un contrôle absolu sur nos résultats. Le sergent Lee Yun est le sous-officier responsable du 86e groupe d'opérations pour la survie, l'évasion, la résistance et l'évasion. En tant qu'instructeur CIA, Survival, Évasion, Résistance, escape, l'y enseigne les techniques de survie aux équipages aériens, au personnel des opérations spéciales et à d'autres militaires qui courent un risque élevé d'isolement, de se retrouver dans une situation à la Robinson Crusoe ou dans ce célèbre film des années 1990, Castaway, où Tom Hanks se retrouve sur une île déserte. De son expérience, Lee conclut que la survie est avant toute une question d'esprit. La survie, c'est 10% de physique et 90% de mental, dit Lee. C'est ce que vous diront les militaires qui sont régulièrement confrontés à des situations de survie. Il faut être mentalement fort et avoir la volonté d'endurer. Ce sont ces personnes qui s'en sortent en situation de survie. Vous avez besoin de nourriture et d'eau, mais si vous n'avez pas cette force mentale et que vous abandonnez dès les premiers jours, votre vie est foutue. L'évaluation porte sur 90% de la force mentale. Examinons donc quelques-unes des qualités requises pour être un survivant spirituel et voyons à quel point elles sont importantes. Nous le savons intrinsèquement. Je ne vous dis rien que vous ne compreniez déjà, mais cela nous aide à mettre en place ces tactiques ou techniques de survie, quelle que soit la façon dont vous souhaitez les qualifier. Examinons quelques-uns des attributs mentaux, ces 90%, si vous voulez, qui nous maintiendront en vie. Il ne s'agit en aucun cas d'une liste complète ou exhaustive, mais ces éléments sont nécessaires pour survivre spirituellement dans un monde spirituellement dangereux et dans le peu de temps qu'il nous reste. La première qualité que nous devons adopter est que les survivants spirituels conservent une vision. Les survivants spirituels conservent une vision. Imaginez que vous êtes un survivant physique. Vous vous êtes écrasé dans l'océan Pacifique, le reste de l'équipage est mort et vous échouez sur une île. Imaginez que vous vous disiez « Je n'ai aucun espoir, et c'est tout. Je ne reviendrai jamais à la civilisation. » Vous abandonneriez en quelques heures ou quelques jours. Mais si vous aviez une vision, vous savez quoi? Si je rassemble toutes mes ressources, si je reste calme, si j'avance, si je fais de mon mieux, peut-être qu'un autre avion passera, que j'aurai un signal de fumée et que je m'en sortirai. C'est ce genre de vision qui permet à une personne en situation de survie de rester motivée. C'est crucial, absolument crucial. Proverbe 29, 18. Proverbe 29, 18. Notre vision du royaume de Dieu, notre vision des choses que nous venons d'apprendre à la fête est ce qui nous permettra de continuer. Nous assurer que nous sommes des survivants spirituels. Proverbe 29, 18. Là où il n'y a pas de vision. Salomon explique, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Sans vision, sans but, si nous pouvons revenir à notre sermon, sans un objectif primordial dans la vie, le but que nous devons rechercher en premier, le royaume de Dieu, nous périrons si nous ne le gardons pas au centre de notre attention. Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi est heureux. C'est le côté opposé de la chose. C'est le côté opposé à l'absence de vision. Garder la loi suggère que nous comprenons, eh bien, que je dois me forger un caractère. Je ne peux pas gagner la vie éternelle, mais je construis la vie éternelle. Je me forge le caractère nécessaire pour obtenir la vie éternelle. Je veux respecter la loi de Dieu. Je veux apprendre sa voie pour pouvoir aider les autres. Pour pouvoir vivre éternellement et aider les autres à vivre éternellement aussi. Nous qui observons la loi de Dieu, nous qui apprenons à craindre Dieu lors du festin, nous qui passons notre vie à lui obéir, nous avons intrinsèquement une vision. Nous savons où ce chemin nous mènera en fin de compte, et il est crucial pour notre survie. Nous ne pouvons pas perdre de vue les leçons que nous venons d'apprendre à la fête. Au chapitre 9 de Luc, Christ a amplifié cela. Luc 9, verset 57, comme ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Il voulait le prix ultime, « si vous voulez. » Jésus lui dit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Et il dit à un autre, « Suis-moi. » Mais celui-ci dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Je veux passer le reste de ma vie. » Il ne s'agissait pas d'un enterrement. Il voulait aller jusqu'au bout de l'existence terrestre de son Père. Il voulait s'occuper de certains aspects de cette vie. Il n'y a rien de mal à vouloir passer du temps avec son Père, mais cela ne peut pas remplacer le fait de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et Jésus poursuit son explication au verset 60, Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer les morts. Mais toi, va prêcher le royaume de Dieu. » Un autre dit encore, « Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ceux qui sont chez moi, dans ma maison. » Jésus lui dit, « Aucun homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. » En d'autres termes, une fois que nous nous engageons, une fois que nous adoptons cette vision, il y a eu des baptêmes lors de la fête, une fois que nous décidons que c'est la vie que je vais vivre, que je veux faire partie de la famille de Dieu, c'est une quête totale. C'est une situation de survie spirituelle totale. Et rien, a dit Christ, ne peut s'y opposer. Ni nos relations, ni nos désirs, ni notre vie passée. Non. Nous mettons la main à la charrue. Nous faisons le travail. Nous devons aller de l'avant. Regarder en arrière risque de nous faire dévier de cette voie formidable. Regarder en arrière de façon chronique nous détruira. Nous devons rester concentrés, aller de l'avant. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est, Hébreux 11 6, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. C'est par la foi que Noé, averti par Dieu de ce qu'il ne voyait pas encore, fut saisi de crainte. Noé a eu la clairvoyance de dire, « Ce que Dieu me dit est vrai, il va y avoir un déluge. Je dois construire un bateau parce que Dieu me l'a ordonné, mais c'est aussi le seul moyen de survivre. » Il ne l'a pas vu, mais il a bougé de peur. Il savait que cela allait arriver parce que c'est ce que Dieu avait dit. Il a préparé une arche pour sauver sa maison, par laquelle il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui vient de la foi. Le monde l'a pris pour un fou, il n'a pas voulu l'écouter. Il pensait que c'était un vieil homme fou, âgé de 600 ans ou quelque chose comme cela à l'époque. J'ai oublié le chiffre exact. Il a condamné le monde dans le sens où ses actes témoignaient de sa foi en Dieu. On s'est sans cesse moqué de lui jusqu'au jour où l'arche s'est refermée et où les gens ont commencé à se rendre compte qu'il avait peut-être une idée derrière la tête. Il était sur quelque chose. C'est par la foi qu'Abraham, appelé à se rendre dans un lieu dont il aurait ensuite l'héritage, obéit et partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il séjourna dans le pays de la promesse, comme dans une terre étrangère, habitant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, héritier avec lui de la même promesse, car il cherchait une ville qui a eu des fondements. Il pouvait l'envisager. Il avait la vision, dont Dieu est le constructeur et l'artisan. C'est aussi par la foi que Sarah a reçu la force de concevoir une semence et qu'elle a été mise au monde alors qu'elle était âgée, parce qu'elle a jugé fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi il en est sorti, même de personne, et lui comme mort, un nombre aussi grand que la multitude des étoiles du ciel. Il croyait que Dieu donnerait effectivement le fils qu'il avait promis, et c'est de là qu'est né Israël. Et le sable qui est au bord de la mer, innombrable. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les promesses, mais les ayant vus de loin. Ils avaient cette vision spirituelle qui leur permettait de survivre à des situations physiques plus périlleuses que celles que nous avons probablement jamais connues, mes frères. Imaginez le monde entier englouti dans un déluge. L'exemple de Noé, sa vision, la vision d'Abraham, les visions de tous ces grands patriarches, la vision de l'avenir leur a permis de survivre spirituellement, mais aussi physiquement, dans leur cas. Ils ont cru Dieu. Verset 14. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. En vérité, s'ils s'étaient souvenus du pays d'où ils étaient sortis, s'ils avaient regardé en arrière alors qu'ils avaient la main à la charrue, nous pouvons utiliser l'analogie du Christ, ils auraient peut-être eu l'occasion de revenir. Mais maintenant ils désirent une patrie meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste, où Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce que nous attendons. C'est ce qu'ils attendent, c'est ce que nous attendons avec impatience. Cela a une énorme valeur de motivation si nous l'attendons activement. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, parvenu à l'âge mûr, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, préférant souffrir avec le peuple de Dieu plutôt que de goûter pour un temps les plaisirs du péché. Il y avait toutes sortes de choses autour de lui pour le séduire. Il vivait en quelque sorte au sommet des gouvernements mondiaux et aurait pu avoir tout ce qu'il voulait. Mais il avait une vision, et il n'allait pas regarder à gauche ou à droite, ou en arrière. Il allait regarder droit devant lui. Oui, tout le monde, tous ses serviteurs ont commis des erreurs, tout comme nous l'avons fait, tout comme nous le ferons. Nous ne devons jamais les laisser nous faire dérailler. Nous devons toujours nous efforcer de faire mieux. Ne jamais utiliser le fait que nous pourrions faire des erreurs comme une excuse pour en faire. C'est une autre chose à considérer. Il estime que l'opprobre du Christ est une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, parce qu'il a tenu compte de la récompense. C'est par la foi qu'il abandonna l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il supporta de voir celui qui est invisible. Il a eu cette grande vision. Paul a dit quelque chose de semblable dans Romains 8. Romains 8, verset 14. Paul a vu au-delà de tout ce qui se passait autour de lui, de toutes les épreuves, de toutes les difficultés. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude qui vous ramène à la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. Si nous sommes enfants, nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés ensemble. Car j'estime que les souffrances du temps présent, cette situation de survie spirituelle dans laquelle nous nous trouvons constamment entourés de difficultés, constamment entourés de mal, constamment entourés de choses qui peuvent nous nuire ou nous faire dérailler, nous faire dévier de notre route, ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Il a attendu cette gloire avec impatience et a enduré lui-même des naufrages, des animaux sauvages. L'étoffe de ces histoires avec lesquelles nous avons commencé. Mais plus encore, il a enduré spirituellement. Les survivants spirituels conservent de bonnes œuvres. Deuxième catégorie, deuxième élément de la survie. La clé de la survie. Les survivants spirituels conservent de bonnes œuvres. Vous savez, ceux qui sont bloqués sur une île ou qui font du trekking à travers le pays, ils font l'essentiel. Ils font les choses fondamentales. Ils continuent à faire ce qui doit être fait. Psaume 1 verset 33, comme on l'a dit, nous revenons tout juste de la fête, Psaume 1 verset 33, et lors de cette fête, nous avons non seulement appris des choses, mais nous avons aussi eu des occasions uniques. Psaume 1 à 3 à 3 et verset 1. Voyez comme il est bon et agréable pour des frères d'habiter ensemble dans l'unité. Ces 8 jours sont un moment unique dans l'année. C'est comme l'onguent précieux sur la tête, qui descendait sur la barbe, même sur la barbe d'Aaron, qui descendait jusqu'au pan de ses vêtements. Comme la rosée de l'Hermon et comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie pour toujours. C'est une belle période, une période incomparable, et nous avons probablement développé de nouvelles compétences ou brossé d'anciennes. Les survivants spirituels conservent de bonnes œuvres. Peut-être avons-nous servi un peu plus. Il y a maintenant plus d'occasion de servir à la fête qu'à d'autres moments de l'année. Nous nous sommes peut-être occupés de quelqu'un qui se sentait exclu. Nous avons peut-être préparé un repas pour quelqu'un ou pensé aux personnes confinées. Vous savez, les personnes confinées ne sont pas seulement confinées à la fête. Peut-être sommes-nous devenus plus routiniers dans notre prière. Vous savez, nous étudions, pour ainsi dire, à intervalles fixes tout au long de la fête lorsque nous venions aux offices. Peut-être que notre vie spirituelle est devenue plus routinière, et c'est quelque chose que nous voulons ramener dans nos foyers, où qu'ils soient. Entretenir de bonnes œuvres dans ce sens. Tite chapitre 3, Tite 3. Les survivants spirituels maintiennent de bonnes œuvres. Cela ne se fait pas tout seul. Cela demande de la planification, de la prévoyance, de la méditation, nous le verrons. Tite, chapitre 3. Paul a écrit à Tite. Il a dit, « Apprenez-leur à être soumis aux principautés et aux pouvoirs, à obéir aux magistrats, à se préparer à toute bonne œuvre. » Prêt à toute bonne œuvre. De ne dire du mal de personne, de ne pas être bagarreur, mais d'être doux, de faire preuve d'une grande gentillesse à l'égard de tous. Ce sont les éléments des bonnes œuvres. Car nous avons été nous-mêmes quelquefois insensés, désobéissants, séduits, servant diverses convoitises et divers plaisirs, vivant dans la malice et l'envie, haïssant et détestant les uns les autres. Mais après cela, la bonté de Dieu, la bonté et l'amour de Dieu notre Sauveur envers l'homme se sont manifestés, non par les œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés, excusez-moi, par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous abondamment par Jésus-Christ notre Sauveur, afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. Cette vision de la vie éternelle, c'est une parole fidèle, et c'est ce que je veux que vous affirmiez constamment, afin que ceux qui ont cru en Dieu aient soin d'entretenir de bonnes œuvres. Ces choses sont bonnes et profitables à tous les hommes. C'est un mot fascinant. On nous dit d'être attentif à maintenir de bonnes œuvres. Attention signifie simplement réfléchir, penser à tout cela. Réfléchir à la manière d'entretenir de bonnes œuvres. Cela peut également signifier être anxieux, se préoccuper de la question. Paul dit qu'il faut penser aux bonnes œuvres et s'en préoccuper. Cela ne se fait pas tout seul. Oui, il y a des circonstances qui se présentaient une occasion de faire une bonne œuvre, mais nous devons y penser, nous devons réfléchir, nous devons planifier. Nous devons faire de notre mieux lorsque l'occasion se présente. Revenons au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux. Paul à nouveau. Verset 23, retenons fermement, Hébreux 10, 23, la profession de notre foi, sans faiblir, car il est fidèle, lui qui a promis, Et considérons-nous les uns les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, sans négliger l'assemblée, comme le font certains, mais en nous exhortant les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Je dirais que les bonnes œuvres engendrent les bonnes œuvres. Il ne s'agit pas de servir cette personne parce qu'elle me sert, comme si nous devions vérifier ce côté du grand livre parce que l'autre côté a été vérifié. Mais non, lorsque des frères vivent ensemble dans l'unité, qu'ils veillent aux besoins les uns des autres et qu'ils se provoquent les uns les autres de manière naturelle et juste, c'est une belle image. Et cela ne se produit pas seulement lors de la fête. Nous devons maintenir ces bonnes œuvres lorsque nous revenons dans nos congrégations. Et si nous sommes loin, alors peut-être devons-nous exercer cela de manière créative, exercer notre pensée, être prudent de différentes manières. La situation de chacun est différente. Éphésiens, chapitre 2, Éphésiens, chapitre 2. Dieu nous guidera dans ce domaine. Il ne nous laissera pas nous débrouiller seuls. Nous avons son esprit ou son esprit agit en nous. Si nous ne sommes pas encore baptisés, Dieu nous guidera. Éphésiens 2, verset 5. Alors que nous étions morts dans nos péchés, il nous a vivifiés avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés et qu'il nous a ressuscités et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, dans Christ Jésus, afin de montrer, dans les siècles à venir, l'extrême richesse de sa grâce et de sa bonté envers nous, par Christ Jésus. Quel objectif! Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, créés dans Christ Jésus pour de bonnes œuvres. Dieu nous a créés dans l'attente, dans le but, dans le projet que nous accomplissions de bonnes œuvres. Je veux dire qu'un bon travail consiste à s'adresser à quelqu'un qui semble exclu et à l'inclure. Il y a un large spectre, et cela peut sembler une petite chose, mais ce n'est pas le cas si vous y réfléchissez, ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes son ouvrage, créé dans Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour que nous les pratiquions. Il a planifié certaines, peut-être toutes, je ne sais pas exactement comment il fonctionne, mais il a planifié ses bonnes œuvres dans le passé. Donc, s'il a planifié, s'il a prédestiné ses bonnes œuvres, il est évident qu'il va nous aider à les réaliser. C'est peut-être aussi simple que de dire, « Père, tu sais, s'il te plaît, montre-moi quelles sont les bonnes œuvres que je peux accomplir. Je ne vois pas beaucoup d'occasions. S'il vous plaît, montrez-moi quelque chose. Montre-moi comment je peux aider, ou peut-être qu'il y a quelqu'un à qui je peux parler pour savoir ce que je peux faire de plus, quoi que ce soit. Après tout, c'est lui qui a ordonné que nous marchions dans ses voies. » Philippiens, chapitre 2. Il n'a pas seulement prévu ses œuvres pour nous. En fait, si nous sommes en phase avec lui et si nous nous appuyons sur lui, il nous guidera dans leur réalisation. Il nous guidera dans le désir même de les accomplir. Philippiens 2, 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non seulement en ma présence, mais bien plus encore en mon absence, travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement pour son Dieu qui agit en vous, tant pour vouloir que pour faire ce qui est conforme à son bon plaisir. Faites tout cela sans murmure ni contestation. C'est Dieu qui agit en vous pour que vous vouliez et fassiez ce qui lui plaît. Nous ne nous sentons peut-être pas motivés. Dieu dit, « Quand tu fais quelque chose de bien, c'est que je t'ai motivé. » Peut-être nous sentons-nous démotivés. Nous pouvons simplement demander à Dieu de nous motiver. Cela peut demander un effort, mais il le fera. Il promet que c'est Dieu qui agit en vous pour que vous vouliez et fassiez ce qui lui plaît. Faites toutes choses sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et sans tache, des fils de Dieu irréprochables au milieu d'une nation perverse et tortueuse, au milieu de laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde. Pour survivre au milieu de cette génération tortueuse et perverse en tant que lumière, nous devons spirituellement continuer à avancer de toutes les manières dont nous parlons, et de bien d'autres encore, bien sûr. 1 Jean 3. D'immenses bénéfices en découlent. 1 Jean 3 et verset 22. Jean dit, tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Nous ne pouvons pas gagner le salut, mais nous pouvons faire des choses qui plaisent à Dieu, et il nous aidera à les accomplir. Ensuite, les survivants spirituels sont forts. Les survivants spirituels sont forts. Proverbe, chapitre 24. Ils se trouvent dans une situation difficile. Ils n'abandonnent pas. Ils sont forts, tout comme un naufragé doit être fort mentalement. Ils ne peuvent pas se lasser de chercher de la nourriture ou décider de ne pas construire un abri ou de ne pas chercher de l'eau, de ne pas trouver de l'eau fraîche. Non, ils sont forts. Les survivants dans ces situations doivent être forts, et nous devons l'être aussi. Proverbe 24, 10. Si tu t'affaiblis au jour de l'adversité, ta force est peu de choses. L'implication est que nous devons être forts au jour de l'adversité. Heureusement, nous ne comptons pas sur nos propres forces, car nous ne sommes pas les plus forts du monde. Nous sommes loin de l'être. En fait, Dieu nous dit en partie, « Je t'ai appelé parce que tu n'es pas fort. » Nous sommes faibles, vils, insensés, mais nous sommes ainsi parce que Dieu sait que nous sommes plus enclins à nous appuyer sur lui. C'est lorsque nous pensons être forts que nous avons des problèmes. Lorsque nous pensons que nous sommes humainement forts et que nous comptons sur cette force, j'ajouterai que nous sommes dans le pétrin. Dans le chapitre 1 de Josué, être fort n'est pas facultatif. Ce n'est pas un choix que nous sommes autorisés à faire en tant que chrétiens. En fait, Dieu nous ordonne d'être forts. Et, bien sûr, il nous ordonne d'être forts parce qu'il est la source de notre force. Ce n'est pas comme si nous ne pouvions pas être forts, alors qu'on nous dit que nous devons l'être. Non, on nous ordonne d'être forts et on nous donne les outils nécessaires. Josué, chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel parla à Josué, fils de Nun, ministre de Moïse, et lui dit, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse, depuis le désert de ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve Euphrate, tout le pays des Hittites et au-dessous de la grand mer, jusqu'au coucher du soleil, sera votre territoire. Aucun homme ne pourra se tenir devant vous tous les jours de votre vie, comme je l'ai fait avec Moïse. La raison pour laquelle personne ne peut se tenir devant vous est que, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec vous. Et il en est de même pour chacun de nous, mes frères, je ne vous abandonnerai pas et je ne vous laisserai pas tomber. Je ne vous abandonnerai pas. Soyez forts et ayez bon courage, a dit Dieu. Nous pourrions dire que Dieu a ordonné. Nous verrons plus tard qu'il l'a explicitement ordonné, fortifiez-vous et prenez courage, car c'est à ce peuple que vous donnerez en héritage le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous poursuivons l'ultime terre promise, la terre promise spirituelle dans le royaume de Dieu, et pas seulement une terre physique. Comment cela peut-il s'appliquer encore plus à nous? Soyez forts et courageux, afin d'observer et de mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, vous a prescrite. Ne vous en détournez ni à droite ni à gauche, afin de prospérer partout où vous irez. Tous ces points de survie spirituelle sont interconnectés. Rappelez-vous que ceux qui exercent la vision obéissent à Dieu. Ils font la loi du Seigneur. Eh bien, nous voyons ici que ceux qui sont forts font la volonté de Dieu. Ils obéissent à la parole de Dieu. Ils obéissent à la loi, tous les éléments intégrés de la survie. Ce livre de la loi ne s'éloignera point de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit, afin d'observer et de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Car c'est ainsi que tu feras prospérer ta voie et que tu auras du succès. Ne vous ai-je pas donné cet ordre ? Dieu dit. Ce n'était pas une simple suggestion, ne vous ai-je pas donné un ordre ? Soyez fort et courageux, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cela devrait être la chose la plus encourageante que nous puissions entendre, l'une des choses les plus encourageantes que nous puissions entendre. Dieu ne va pas nous dire de faire quelque chose sans nous donner la capacité de le faire. Il nous dit, « Je t'ordonne d'être fort et courageux. C'est pourquoi je vais vous donner les compétences nécessaires. Je vais vous donner l'aide nécessaire pour être fort et courageux, quelle que soit la situation de survie spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Soyez fort et courageux. Ne craignez rien. Ne vous laissez pas abattre, car le Seigneur votre Dieu est avec vous, partout où vous irez. En tout lieu, en toutes circonstances. » Paul l'a dit dans la première partie des Corinthiens, dans la première partie des Corinthiens, dans la première partie des Corinthiens, dans la première partie des Corinthiens. Verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, tenez ferme dans la foi. Quittez les hommes, soyez forts. Quittez les hommes, c'est agir en homme. Soyez forts, ayez du pouvoir. Augmentez votre vigueur. Peu importe que l'on soit un homme ou une femme, l'intention ici est d'être fort. Et encore une fois, nous ne sommes pas naturellement les plus forts, mais Dieu dit qu'il va nous aider à traverser cette épreuve. 2 Timothée 1. Nous avons l'aide ultime. Nous avons Dieu dans notre coin. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il est dit à un endroit, mais tout de suite, 2 Timothée 1 et verset 3, Paul dit encore, « Je rends grâce à Dieu, que je sers depuis mes ancêtres avec une conscience pure, de ce que, nuit et jour, je fais sans cesse mémoire de vous dans mes prières, désirant vivement vous voir et me souvenant de vos larmes, afin d'être rempli de joie en rappelant la foi sincère qui est en vous, et qui a d'abord habité votre grand-mère Loï et votre mère Eugénie. Et je suis persuadé que c'est aussi en vous que je vous rappelle, afin que vous stimuliez le don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et d'intelligence. Il réside en nous ou travaille avec nous, et Dieu nous dit ailleurs que, tout comme un fils affamé demande du pain à son père, il est tout aussi disposé, en fait, plus disposé à nous donner davantage de cet esprit qui nous donnera de la force dans n'importe quelle situation, ou que nous en ayons besoin. Quelle que soit la nature de l'épreuve, quelle que soit la nature de la difficulté, Dieu nous donnera ce dont nous avons besoin. Philippiens 4, dernier passage de cette section. Philippiens 4. Parfois, les choses ne vont pas comme nous le souhaitons. On nous lance une balle courbe. Nous devons nous adapter. Nous devons grandir à partir de cela. Nous ne pouvons pas simplement nous effondrer et mourir. Non, Dieu nous donne de la force. Cela fait partie des bonnes œuvres. Vaincre fait partie d'une bonne œuvre, changer de cap si nécessaire fait partie du maintien d'une bonne œuvre. C'est un tout. Tous ces points sont liés. Cette situation de survie spirituelle n'est qu'une analogie ou un point d'ancrage. Dieu parle d'une seule voix, quel que soit le sujet abordé. Ce n'est qu'un point de vue à travers lequel nous pouvons considérer ces versets. Philippiens 4, 11. Ce n'est pas que je parle de manque, car j'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. Je sais comment être abaissé et comment abonder. C'est très difficile. Il est arrivé à cette conclusion et à cet endroit après une vie longue et difficile. Il faut toute une vie pour le maîtriser, mais il est arrivé à un point où il pouvait dire en toute conscience, « J'ai appris à me contenter de l'état dans lequel je me trouve. » Il faut que ce soit un but que l'on se fixe. Je sais à la fois comment être abaissé et comment abonder partout, et en toute chose je suis instruite à la fois à être rassasiée et à avoir faim, à abonder et à souffrir du besoin. Je puis tout par Christ, qui me fortifie. Non pas par mes propres forces, mais par Christ qui m'aide dans toutes les situations, qui fait en sorte que je puisse réussir dans toutes les situations. Ensuite, voici une tactique de survie, une technique de survie. Les survivants spirituels respectent leurs ennemis. Les survivants spirituels respectent leurs ennemis. Vous savez, si vous êtes sur une île déserte et que vous venez d'échouer sur le rivage ou de tomber du ciel, et que vous voyez un serpent, vous vous dites, « Regardez ce serpent. Je m'en fiche. Il s'approche de moi et il vous mord la jambe. Vous n'allez pas survivre longtemps. » Si vous respectez les circonstances qui vous entourent, vous vous dites, « D'accord, ce serpent est venimeux. Même s'il ne leste pas, je ne veux pas qu'il me morde. » Ou « Je ne sais pas exactement ce qu'est cette végétation, peut-être devrais-je l'introduire systématiquement dans mon régime alimentaire pour m'assurer que je ne mourrai pas ou ne tomberai pas gravement malade au cours de mon deuxième jour en tant que naufragé ici. » Ou quelle que soit la situation. Oh, je n'ai pas besoin de me mettre à l'abri du soleil, même si je ne sais pas s'il y a de l'eau potable à proximité. Je vais juste m'asseoir ici et espérer que quelqu'un vienne. Non, les survivants physiques doivent avoir du respect pour les circonstances et les ennemis, pour ainsi dire, auxquels ils sont confrontés, les choses qui pourraient compromettre leur capacité à survivre. Jude verset 5, Jude 5, une attitude cavalière pour nous les frères. Waouh! Pour un survivant physique, une attitude cavalière peut signifier la mort. Elle peut aussi signifier la mort pour nous si nous ne faisons pas attention. Jude 5, je vais donc vous rappeler. Vous l'avez appris autrefois. Le Seigneur, après avoir sauvé le peuple du pays d'Égypte, fit ensuite périr ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges, qui n'ont pas gardé leur première condition, mais qui ont quitté leur demeure, il les a retenus dans des chaînes éternelles, sous les ténèbres, jusqu'au jugement de ce grand jour. Nous les connaissons sous le nom de démons. Comme Sodome et Gomorre, et les villes voisines, qui se livrent à l'impudicité et vont à la rencontre de la chair étrangère. Certaines des choses qui peuvent nous éloigner, qui ont éloigné les gens, plutôt dans l'Antiquité, sont données en exemple. Ils subissent la vengeance du feu éternel. De même, ces rêveurs immondes souillent la chair, méprisent la domination et disent du mal des dignités. Mais Michel, l'ange de l'arc, en lutte avec le diable. Cet ange surpuissant. En lutte avec le diable, il a contesté le corps de Moïse. Il se disputait les os de Moïse, ou quelque chose comme cela, où il est dit, ne portez pas contre lui une accusation injurieuse, mais dites, le Seigneur vous châtie. Et il respectait le pouvoir du troisième être le plus puissant de l'univers. Et si nous ne craignions pas le diable, nous craignons Dieu. Nous ne craignons pas le diable. Nous ne pouvons pas dire, « Oh, je suis imperméable. Je ne dis pas que l'un d'entre nous le soit. Je suis immunisé contre les voies respiratoires du diable. J'ai l'esprit de Dieu maintenant. Je suis dans l'église de Dieu. Il ne peut pas m'affecter. Non, il a des ruses, il est subtil, il est rusé, il a des stratagèmes. Je pense qu'il s'agit d'une seule et même chose. J'ai passé en revue les différents noms du diable dans la Bible, parce que parfois un nom en dit long. Il est appelé Satan, ce qui signifie un adversaire, l'ennemi juré du bien. On l'appelle le diable, ce qui signifie le troqueur, quelqu'un qui ment et dit du mal des autres. Si vous cherchez dans un dictionnaire moderne, un dictionnaire Oxford moderne dit que traduire, c'est dire du mal de quelqu'un ou raconter des mensonges sur quelqu'un de manière à nuire à sa réputation. On l'appelle le tentateur. Nous savons ce que c'est. Chacun d'entre nous a subi ces tentations. On l'appelle le prince ou le chef des démons, le chef d'un royaume démoniaque. On l'appelle Beelzebub, ce qui signifie en fait le dieu du fumier. C'est le dieu de toutes les saletés, de toutes les choses qui peuvent nous faire dévier du chemin que nous suivons. Il est appelé le méchant, ce qui signifie nuisible, mauvais, calamiteux, malade, mais surtout moralement coupable, c'est-à-dire négligent, vicieux, factice. Fascinor signifie, chercher dans le dictionnaire, extrêmement méchant. La liste est longue. Il est le père du meurtre et du mensonge, et il veut nous assassiner. Nous devons le respecter et nous appuyer sur les autres outils que nous avons examinés pour résister à l'assaut. Dès que nous pensons que nous avons tout prévu et que nous sommes à l'abri de tout, nous nous engageons sur un terrain très dangereux. Nous nous sommes retrouvés à marcher sur des sables mouvants sur cette île où nous avons peut-être débarqué. Et puis il y a la société. Paul l'appelle ce monde présent et mauvais. Nous avons passé en revue certaines des choses qui se passent dans la société au début de cet article. Nous venons de parler des trois ciments, Satan, la société et le moi. C'est très simple, mais toutes ces choses peuvent mettre fin à notre existence si nous ne respectons pas nos ennemis. Christ savait ce qu'il y avait dans le monde, Jean 2, Jean chapitre 2. Il avait une compréhension de la société dans laquelle il était arrivé, de la société dans laquelle nous nous trouvons, qui correspond tout à fait à la nature humaine, au moi, Jean chapitre 2. Lorsqu'il se trouvait à Jérusalem, lors de la Pâque, le jour de la fête, beaucoup crurent en son nom en voyant les miracles qu'il faisait, mais Jésus ne s'engagea pas sous eux parce qu'il connaissait tous les hommes et qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un rende témoignage d'un homme, car il savait ce qu'il y avait dans l'homme. Il comprenait la nature de la société. Il a compris la nature des êtres humains coupés de Dieu. Verset 25. Il connaissait, Jean 2, 25, ce qui était dans l'homme, c'est pourquoi nous devons aussi respecter notre propre nature humaine. Peu importe depuis combien de temps nous sommes dans l'Église. Jérémie 17, 9, entre toujours en ligne de compte. Nous n'avons pas besoin de nous tourner vers cela. Mais nous avons des cœurs trompeurs, des cœurs désespérément méchants. Nous comprenons que nous sommes capables de nous tromper nous-mêmes, de mettre fin à notre quête de la vie éternelle. Et si nous n'avons pas un respect saint pour cet ennemi, il serait bon de méditer sur lui parce que c'est un monde dangereux. Dangereux, mais, bien sûr, il y a un chemin pour en sortir, Romains 7 verset 21. Ces ennemis ne doivent pas nous effrayer. Ils doivent nous faire réfléchir. Tout comme Paul a dit du diable, il marche comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer, nous devons être vigilants et sobres, comme il est dit ici, et non pas légitimes, insouciants, vigilants et sobres, sachant qu'il rôde dans les parages. Vigilants et sobres, sachant à quoi nos antennes sont réceptives. Vigilant et sobre, connaissant le genre de monde dans lequel nous nous trouvons. Romains 7, 21. Je trouve donc une loi qui fait que lorsque je veux faire le bien, le mal est présent avec moi. Voilà un apôtre qui travaille depuis longtemps, qui a vu beaucoup de choses, et il en conclut que lorsqu'il veut faire le bien, il voit le mal en lui. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui combat la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres, ô malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Je remercie Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il savait que Dieu finirait par le délivrer de n'importe quel ennemi, y compris lui-même, mais il avait un respect saint pour ses ennemis parce que les survivants spirituels respectent leurs ennemis. Cela va de pair avec la tactique suivante. Peut-être voudrez-vous l'étudier par vous-même. Nous sauterons cette étape. Mais les survivants spirituels doivent rester humbles. Ils doivent rester humbles. S'ils pensent qu'ils ont tout compris, ou qu'ils vont y arriver tout seuls, ou qu'ils pensent, vous savez quoi? Je n'ai pas besoin d'autant d'aide que d'autres. Vous savez, je suis naturellement forte ou je suis naturellement intelligent. Oh, ils sont sur un terrain très, très dangereux. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas avoir une certaine confiance en nous. Encore une fois, nous nous appuyons sur Dieu. Nous savons que tout va s'arranger. Nous savons comment cela se termine. Ainsi, malgré la présence de ses ennemis, en conservant notre humilité, nous pouvons toujours être confiants dans notre capacité à aller de l'avant. Nous savons que nous pouvons tout faire par Christ, qui nous fortifie, comme nous l'avons vu dans le dernier passage de l'Écriture sur la nécessité de rester spirituellement fort. Dernier point que nous aborderons aujourd'hui, les survivants spirituels, et c'est au cœur de tous les autres points, les survivants spirituels s'appuient sur Dieu. Les survivants spirituels s'appuient sur Dieu. Il n'y a pas de parallèle physique ici. C'est un peu comme les sept lois du succès. Nous avons entendu parler de l'une d'entre elles plus tôt aujourd'hui. Se fixer le bon objectif. Il y en a six autres, mais la dernière n'est pas comprise par le monde. Les six premières lois, vous savez, recevoir une bonne éducation, se fixer le bon objectif, l'esprit d'initiative, etc. Ce sont là des choses que les gens comprennent. Mais c'est cette septième loi, comme le dit M. Pack dans son livret, cette septième loi, le contact avec les conseils et l'aide continue de Dieu, que tout le monde ignore, que personne ne comprend à moins d'être travaillé par Dieu. C'est cette septième loi que tout le monde ignore, que personne ne comprend à moins d'être travaillé par Dieu. La première épître aux Corinthiens, il n'y a pas grand-chose à dire ici. C'est essentiellement la confluence de toutes ces tactiques de survie spirituelle. Mais au verset 4 de la première épître aux Corinthiens, il est dit « Je rends continuellement grâce à mon Dieu en votre faveur pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée par Jésus-Christ, afin qu'en toutes choses vous soyez enrichis par lui en toute parole et en toute connaissance, selon que le témoignage de Christ a été affermi en vous. Ainsi, vous ne manquez d'aucun don, attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous affermira jusqu'à la fin, afin que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle. Dieu nous confirmera jusqu'à la fin. Il veillera à ce que nous y arrivions. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne nous permettra de périr dans cette situation de survie spirituelle. Jean 10. Rien ne peut nous nuire en fin de compte. Je veux dire que des choses nous feront du mal, mais nous nous en remettrons. Qu'est-ce que cela dit? L'homme juste tombe cette fois, mais il se relève. Oui, nous serons parfois battus et meurtris, mais nous n'abandonnerons jamais. En fin de compte, rien ne peut nous sortir de là. Eh bien, il y a une chose. Jean 10, verset 22. C'était à Jérusalem, la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs qui l'entouraient vinrent lui dire, « Jusqu'à quand nous feras-tu douter ? Si tu es Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, et vous n'avez pas cru. Les œuvres que je fais au nom de mon Père, c'est elles qui rendent témoignage de moi. Il a fait de bonnes œuvres, il a entretenu de bonnes œuvres. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, ils sont très différents de nous qui avons été appelés à un mode de vie très spécial, qui comprenons des choses que les masses aimeraient comprendre. Ils veulent simplement l'obtenir sans condition. Et ils comprendront un jour. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, quoi qu'il arrive. Personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher de la main de mon Père. Nous sommes représentés comme étant à la fois dans les mains du Christ et dans celles du Père. Personne, aucun ennemi, aucune situation, aucune circonstance n'est assez puissante pour nous arracher des mains de ces deux grands êtres. Moi et mon Père sommes un. Verset 30. La seule chose qui peut mettre fin à notre existence spirituelle, la seule chose qui nous fera échouer dans cette situation de survie spirituelle, c'est si nous avortons, si nous sautons de ses mains. Et, bien sûr, nous ne ferons pas cela. Nous, frères, ne sommes pas seulement des gens qui survivent. Nous sommes des gens qui prospèrent. Romains, chapitre 8. Nous terminons ici le chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Peu importe que nous soyons confrontés à des serpents et à d'autres bêtes venimeuses, à des sables mouvants, à la déshydratation, à la famine. Quelle que soit la façon dont vous voulez caractériser l'analogie avec une situation de survie, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Romains 8 et verset 31. Que dirons-nous donc à ces choses ? À n'importe quoi. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? S'il est dans notre coin, s'il se bat pour nous, s'il est celui qui nous donne la force et l'énergie, nous n'avons rien à craindre. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils. C'est dire à quel point il se soucie de nous. C'est dire à quel point il veut que nous réussissions. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas toute chose si nous ne le faisons pas avec lui ? Il était prêt à faire cela pour nous. Il est prêt à tout pour nous. Il veillera à ce que nous réussissions. Qui mettra quoi que ce soit à la charge des élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort. Oui, plutôt, qui est ressuscité. Qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ. La tribulation, la détresse, la persécution, la famine, la nudité, le péril ou l'épée. Quelle que soit la situation de survie spirituelle dans laquelle nous nous trouvons. Comme il est écrit, nous sommes tués pour l'amour de toi, nous sommes tués tout au long de la journée. Nous sommes comptés comme des brebis pour l'abattage. Non, dans toutes ces choses, nous survivons. Non, il n'est pas dit que nous survivons à toutes ces choses. Non, dans toutes ces choses. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il ne s'agit pas seulement de survivre. Il s'agit en fin de compte de prospérer, d'atteindre le summum de l'existence humaine. entrer dans la famille de Dieu. Car j'ai l'intime conviction, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans Christ Jésus, notre Seigneur. Lorsque nous survivons, frères, pour revenir à notre analogie, ce n'est pas seulement pour retourner à la civilisation, recevoir des soins médicaux, être réunis avec nos familles, profiter de cette vie pour le reste de nos années. Nous sommes profondément reconnaissants, bien sûr, dans le cas des survivants émaciés, peut-être endommagés de façon permanente. Il ne s'agit pas seulement de retourner à la civilisation. Il s'agit d'entrer dans le royaume de Dieu que nous envisageons. Frères et sœurs, pendant le peu de temps dont nous disposons, nous devons nous rendre à l'évidence que nous devons être des survivants spirituels. Nous allons échapper à la mort elle-même. Nous sommes dans un endroit sombre et dangereux. Et oui, nous avons un peu plus de temps, mais nous avons tous les outils. Dieu nous a donné tous les outils dont nous avons besoin dans cette situation de survie spirituelle pour non seulement survivre mais aussi prospérer.